Laudetur Jesus Christus.
Le monde a les yeux tournés vers le conclave qui s'ouvrira demain mercredi dans la Chapelle Sixtine. Ce matin s'est tenue la 12e et dernière congrégation générale réunissant tous les cardinaux présents à Rome. L'occasion d'affiner leurs discussions, témoignage au début de ce journal d'une des voix françaises de ce conclave, le cardinal François-Xavier Bustillo, l'évêque d'Ajaccio en Corse. Avec près de 5000 journalistes venus du monde entier, le conclave est un événement planétaire. Comment s'articule tant médiatique et tant de l'Église? Éclairage d'un spécialiste qui travaille justement sur le conclave et les médias. Et puis dans ce journal, nous entendrons également la voix du frère Mathieu, le prieur de la communauté de Thésée. Il reviendra sur les fruits de l'écuménisme du pontificat de François qu'il espère voir prolonger avec son successeur. Thésée qui organise ce mardi une prière spéciale pour le conclave.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la 12e congrégation générale des cardinaux s'est donc tenue ce matin au Vatican dans la salle du synode. À la veille d'entrer en conclave, les électeurs ont pu une nouvelle fois s'exprimer sur les thématiques concernant l'avenir de l'Église dans le monde, mais aussi les non-électeurs. Nous y reviendrons largement ce soir dans notre édition de 18h. Hier soir, c'est la figure d'un prochain pape qui soit un pasteur qui a émergé des congrégations. De nombreuses questions ont également été abordées comme le phénomène de la migration, l'ecclésiologie de la communion ou encore le défi que posent les sectes dans certaines régions du monde. Parmi les cardinaux électeurs, le français François-Xavier Bustillo, l'évêque d'Ajaccio. Il fut le dernier à accueillir François lors de son voyage apostolique en Corse, c'était au mois de décembre dernier. Le cardinal Bustillo qui fait une synthèse de ces riches journées d'écoute que sont les congrégations sur de vastes thématiques. On l'écoute.
Quand on est nombreux et que nous venons d'horizons différents, de cultures différentes et des missions différentes dans l'Église, quand on a des canonistes du Vatican, quand on a des responsables des finances du Vatican, quand on a des pasteurs de Mongolie, de Timor ou d'ailleurs, évidemment nous assistons, et c'est très riche et très juste, à la diversité, à la variété des missions des cardinaux dans l'Église. Donc notre famille, elle est riche de missions, et donc on a écouté cette diversité, et moi je pense que c'est très sain d'écouter cette diversité, parce qu'à la fin c'est à nous de faire une synthèse après cette longue analyse que nous avons écoutée ce jour-ci. Donc moi je suis dans une logique d'écoute pour capter ce que chaque cardinal a dit, et après quand on va rentrer à la Chapelle Sixtine, voilà, on sera dans un moment de synthèse pour se dire voilà, on a écouté, maintenant qui va incarner et qui va faire la synthèse de tout ce qu'on a dit. Alors évidemment, on sait que le futur pape n'est pas un concentré de toutes les qualités, mais il fera de son mieux, il se fera aider, mais en tout cas, il tiendra compte de tout ce qu'on a dit ce jour-ci.
Le cardinal François-Xavier Bustillo, l'évêque d'Ajaccio, interrogé par Marie Duhamel, la journée du conclave qui commencera demain à 10h par la célébration de la messe pro Eligendo Pontefice dans la basilique Saint-Pierre. Elle sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, le doyen du Sacré Collège. Une messe que vous pourrez suivre en direct avec commentaires en français sur notre site et notre page Facebook. Près de 5000 journalistes venus du monde entier ont été accrédités auprès de la salle de presse du Saint-Siège pour l'élection du pape, faisant de ce conclave un événement planétaire unique en son genre. L'Église qui est sous le feu des projecteurs alors qu'elle n'a à première vue pas beaucoup à montrer, les cardinaux étant reclus dans la Chapelle Sixtine. C'est tout le paradoxe médiatique de ce moment. Il est décrypté par Olivier Matona, directeur adjoint des études à l'IRCOM, l'école de communication à Angers, dans l'ouest de la France. Il prépare une thèse, justement, sur les conclaves et les médias.
Médiatiquement, un conclave, c'est un immense paradoxe. Il y a un prof d'université italien, Federico Ruzzi, qui décrit le conclave comme un événement médiatique, non médiatique, puisque toutes les caméras du monde seront braquées sur des portes fermées. Tout le monde guettera une fumée qui ne viendra pas, ou peut-être pas tout de suite. Et donc, c'est un immense paradoxe. L'Église a l'occasion de s'adresser en direct à une part très importante de l'humanité la semaine prochaine. Et pour autant, à première vue, elle ne va rien dire. En fait, elle va dire beaucoup de choses. Mais dans un premier mouvement, c'est comme si l'Église se taisait au moment où tout le monde l'écoute. En fait, il y a un très grand enjeu pédagogique, parce que le conclave ne ressemble pas à une élection normale. Le conclave, ce n'est pas une élection du président de la Fédération catholique mondiale. C'est pas ça, un conclave. Et ça, c'est assez difficile à comprendre pour les médias qui, souvent, quand ils connaissent peu l'Église, raccrochent l'élection du pape à des catégories qu'ils connaissent. Et donc, ça donne des questions un peu étonnantes, un peu des quiproquos. Mais en fait, le quiproquo fondamental, c'est les logiques médiatiques qui s'opposent d'une certaine façon à la logique ecclésiale. Je veux dire par là que l'Église prononce un discours de continuité. Dans le discours de l'Église officielle, il n'y a pas de rupture d'un pontificat à l'autre, alors que ce qui intéresse un journaliste, c'est la rupture, c'est la discontinuité.
Olivier Matona, doctorant en communication et qui travaille sur le conclave et les médias. Il n'y a pas que les cardinaux qui prêtent serment lors de cette période de réclusion vaticane qu'est un conclave. Hier après-midi, une centaine de personnes ont prêté serment à leur tour dans la chapelle Pauline du Palais Apostolique. C'est depuis cette chapelle que les cardinaux entreront en procession dans la chapelle Sixtine, à quelques mètres de là. Tout ce personnel va assister les cardinaux, que ce soit à la maison Sainte-Marthe où ils logent ou à la chapelle. Des professeurs en plusieurs langues pour les cardinaux, mais aussi le personnel de cantine ou de nettoyage, les services techniques du Vatican, sans oublier le colonel de la garde suisse. Et pour la petite histoire, celui-ci sera d'ailleurs le premier laïc à rencontrer le nouveau pape, sitôt que celui-ci sera élu. Le 30 avril dernier, les cardinaux avaient demandé la prière de l'Église universelle pour le conclave. Compte tenu de l'énormité de la tâche qui nous attend et l'urgence du temps présent, écrivait-il dans un communiqué, il est nécessaire avant tout de nous faire les plus humbles instruments de la sagesse infinie et de la providence de notre Père Céleste dans la docilité à l'action de l'Esprit-Saint. C'est ce que l'on a pu lire dans ce communiqué du Collège Cardinalis. Cette prière du monde entier est bien réelle sur de nombreux continents, de la Guinée à la Chine, de l'Égypte au Pérou. En France, la communauté de Thésée organise ce mardi une prière écuménique pour le conclave en proposant des textes pour que celui que Dieu appellera à être le prochain successeur de Pierre soit, je cite, un serveur d'unité. Le frère Matthieu est le prieur de Thésée. Il revient pour nous sur la veillée écuménique qui s'était tenue à Rome le 30 septembre 2023 en présence du pape François, nommé Together, en espérant que cela ait pu semer des graines pour l'avenir et pour l'unité des chrétiens.
Je reste quand même très marqué par la préparation de notre veille écuménique Together, non, qui a eu lieu juste avant le début de première session du synode. Et on reste avec cette image de la bénédiction commune à la fin de la veillée où le pape était là au centre, mais entouré des responsables des différentes églises. Patriarche Bartholomé, l'archevêque de Canterbury, le représentant des luthériens, des réformés, des différentes églises orthodoxes et orientales. Et c'était un moment très, très fort. Et là, on voyait que le pape, un peu comme un pasteur universel, comme serviteur de communion au sein du peuple de Dieu, il a toujours parlé du lien entre la synodalité et l'œcuménisme. Le chemin synodal est forcément œcuménique et le chemin œcuménique est forcément synodal parce que les deux impliquent une grande écoute de l'autre, d'accueillir le don de l'autre, de se laisser convertir aussi par l'autre. Et ce faisant, est-ce que là aussi, il peut y avoir une ouverture envers ceux qui ne sont pas formellement, disons, en communion avec Rome, mais qui cherchent cela, une reconnaissance de leur tradition? Peut-être, ça c'est un espoir pour l'avenir.
Des propos recueillis par Jean-Charles Puzzolu, la communauté de Thésée dont la prochaine rencontre européenne à la fin de l'année se tiendra à Paris en présence de milliers de jeunes. Frère Matthieu, dont vous pouvez retrouver l'entretien plus en détail sur notre site vaticannews.va. Avant de refermer ce journal, pardon, j'en perds ma salive. Dès demain, mercredi soir, Radio Vatican vous proposera des émissions exceptionnelles, spéciales conclave, avec des invités en plateau, des reportages au plus près de la place Saint-Pierre et des interviews sur les attentes de l'Église. Nous vous accompagnerons jusqu'à ce qu'une fumée s'élève au-dessus de la basilique Saint-Pierre. En cas de fumée blanche, nous découvrirons bien sûr ensemble l'identité du 266e successeur de Pierre. Tout cela sera à suivre sur vos antennes habituelles, mais également sur Vatican News ainsi que sur nos pages YouTube ou Facebook. Voilà pour ce journal de la mi-journée. Merci infiniment pour votre fidélité. L'information reviendra ce soir à 18h. Vous serez accompagné par Marie Duhamel. Je vous souhaite d'ici là une excellente fin d'après-midi.